Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Bienvenue dans les experts au menu du jour. On va faire beaucoup de macroéconomie, de finances et de projections, surtout sur ce qui nous attend à la rentrée. Faut-il craindre ou non une récession mondiale? Les révisions à la baisse des perspectives de croissance se multiplient. Alors, est-ce que on va pas se battre sur un ou deux dixièmes de points de PIB, mais est-ce que ça risque d'être plus grave qu'une récession normale? Et puis face à ça, les politiques monétaires, est-ce que les banquiers centraux ont perdu la main? Est-ce qu'ils en font trop? Est-ce qu'ils en font pas assez? Est-ce qu'ils comprennent bien quelle est la situation? Et puis, évidemment, on reviendra sur des questions, allez, plus franco-françaises, avec les mesures de soutien au pouvoir d'achat, qui dépendront évidemment du contexte économique. Et puis, on reviendra aussi sur les super bénéfices de Total qui vont inévitablement relancer le débat sur la taxation des super profits. Mais on démarre tout de suite avec les perspectives mondiales. Et pour évoquer donc tout ce qui nous attend à la rentrée, nous accueillons Sylvie Matera. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous êtes économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars, mais vous avez une longue carrière en banque centrale et en banque commercial qui fait que vous allez tout nous dire sur les risques ou pas qui affectent le secteur bancaire et puis sur les politiques monétaires aussi. Alors, s'il y en a un qui connaît les politiques monétaires, c'est bien lui, Christian de Boissieu. Bonjour. Bonjour. Professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du cercle des économistes qu'il représente comme tous les jeudis, puisque tous les jeudis, un membre du cercle des économistes est présent dans l'émission Les Experts. Je cite votre dernière contribution, Christian, le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ou la mondialisation en question? Excellent livre collectif qui nous interpelle effectivement sur cette notion de patriotisme économique. Et puis Frédéric Farah, bonjour. Économiste, enseignant-chercheur, affilié au laboratoire Phare de l'université Paris-Sorbonne. Phare, c'est P-H-A-R-E. Hein. C'est pas le laboratoire le plus éminent de...
Il l'est,
bien évidemment.
Oui, mais c'est pas... un phare au sens...
Phare, c'est philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. On démarre avec, quand même, les perspectives économiques pour la fin d'année et pour 2023. Christian de Boissieu, le FMI qui révise à la baisse. La question, finalement, c'est est-ce qu'on va tangenter ou pas la récession, ou est-ce que ça va être plus grave que ça?
Bon, il y a... D'abord, bonjour. Il y a un sens technique à la récession qui est peut-être pas d'ailleurs le plus intéressant, qui consiste à dire deux trimestres consécutifs négatifs. Okay. On va avoir tout à l'heure le chiffre américain pour le deuxième trimestre. Le premier trimestre 2022 a été négatif. Si donc le deuxième trimestre est également négatif, on dira les États-Unis sont techniquement...
Mais alors, vous avez vu, il y a un débat passionné aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, en disant il ne faut pas prendre ça comme indicateur.
Voilà, en disant, mais comment on définit une récession?
Non, mais justement, je dis que ce sens technique utilisé par les conjoncturistes n'est peut-être pas le plus intéressant. Et Powell lui-même a signalé hier, quand il a annoncé la hausse du taux directeur de la Réserve fédérale, il a dit au fond, moi, en tant que président de la Fed, je regarde ce qui se passe sur le marché du travail. Et effectivement, les États-Unis sont pas très loin du plein emploi. Bon. Deuxième remarque, au-delà du sens technique, et pour revenir aux prévisions du FMI, je dirais, le scénario quand même dans lequel nous sommes, pour des raisons, Covid, guerre en Ukraine, etc., et ralentissement chinois, tout ce que vous voulez, c'est... On est dans un scénario de très fort ralentissement. Et moi, je regardais les prévisions pour 2023. J'allais dire qu'à la limite, 2022, c'est en partie joué quand on regarde les chiffres. Mmh. Parce que la conjoncture moyenne d'une année se joue beaucoup sur le premier semestre pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Mais on va faire cette année autour de 2 et quelques en France, dans la zone euro, etc. Mais cette croissance 2022, c'est encore à mes yeux une croissance de rattrapage. Post-Covid ou post-confinement. Le Covid n'est pas fini, mais le confinement, a priori, est terminé. Bon, en tout cas pour nous, en Europe. Donc, moi, ce qui est, je reviens sur 2023. Ce qui me frappe, c'est que les prévisions du FMI pour 2023, elles sont revues à la baisse. Et on est à quoi ? On est à 1% pour les États-Unis l'année prochaine, d'après les prévisions. FMI, il peut se tromper, le FMI. Ce n'est pas parce qu'il y a 2000 économistes à Washington qui ne se trompent pas. 1% pour la France, etc. C'est-à-dire que, voilà, on revient, une fois l'effet rattrapage post-confinement dissipé, on revient à ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui n'est pas terrible, qui n'est pas terrible en France et en Europe, etc. La croissance potentielle de la France, elle est autour de 1, maximum 1,5%. Donc, quand la mer se retire... Quand la mer se retire, je dirais, on voit qui est à poil et qui n'est pas à poil. Bon, voilà, au-delà du... Je termine en disant, au-delà de cette question technique, récession ou pas récession, ouais. D'autres baisses continues, moi, ce qui me préoccupe, c'est la tendance à ce très fort ralentissement qui va avoir des conséquences pour l'emploi. Je termine en disant, hier, on a affiché les chiffres pour la France au deuxième trimestre 2022, bon, pour l'emploi et le chômage. Et interrogé là-dessus, moi j'ai dit, cette dynamique de l'emploi, très bien, profitons-en, on est sur notre lancée. Mais si vous regardez ce qui est prévu, ce qu'il y a dans le tuyau au point de vue de croissance ou de ralentissement plutôt, pour la fin 2022 et pour 2023, je pense qu'on ne peut pas extrapoler que la baisse du chômage, le chômage va forcément remonter en France, à mon avis, fin 2022-2023. Voilà, je m'arrête.
Sylvie Matera, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui, vous, dans l'économie mondiale ?
Bon, moi, je ne suis pas une fétichiste des termes. D'abord, récession, ce n'est pas forcément un drame. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ralentissement. Mais il y a un ralentissement qui va être aussi un peu provoqué par les réactions des banques centrales qui sont en train de remonter à toute vitesse les taux après avoir attendu qu'ils baissent tout seuls. Donc... ça va être. Alors l'idée, c'est un petit peu aussi. Je pense que l'idée, c'est de dire, l'inflation à laquelle on fait face aujourd'hui est liée à des phénomènes conjoncturels, c'est-à-dire la hausse des prix du pétrole, le rattrapage Covid. Et donc, on espère que finalement tout ça, ça va se tasser un jour, et que si on appuie, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que cette inflation, les causes de cette inflation viennent au niveau structurel, c'est-à-dire qu'il y ait une indexation, que les salaires soient augmentés, et que après, ça soit très difficile de revenir sur cette évolution des prix. Donc, si on augmente très rapidement les taux et qu'on a un impact dépressif sur la demande et donc la croissance, dont on voit qu'elle baisse un peu partout, peut-être qu'on peut éviter cette indexation générale et, disons, éviter la surchauffe et repartir sur des croissances certes moins élevées, mais peut-être plus tenables à long terme.
Ouais, donc une fois de plus, Frédéric Farah, on a l'impression que un accident pourrait venir, je dis une fois de plus parce que c'est souvent le cas, des réactions excessives des banques centrales ou dans le mauvais timing des banques centrales.
Moi, j'ai pas voulu dire que c'était un accident. Je pense qu'ils le font exprès. Je pense que la Fed augmente très rapidement et qu'elle a très, enfin que la récession, c'est pas forcément une mauvaise chose dans l'immédiat.
On va y revenir. Je termine sur le tour de table conjoncture. Frédéric, est-ce qu'il y a des choses vous qui vous inquiètent, des équilibres, des pays qui vous inquiètent plus que d'autres?
Il y a plusieurs choses. Je retrouve sur ce que disait Christian tout à l'heure. C'est vrai que la tendance au ralentissement derrière cette croissance pourrait nous faire renouer avec un vieux débat une fois qu'effectivement la mer se retire, la question d'un débat qu'on a un peu évacué, qui était la question du problème de la stagnation séculaire. Qui est à mon avis un débat assez ancien, c'est-à-dire est-ce que...
Alors réexpliquer les termes du débat.
En fait la stagnation séculaire, c'est un terme qui ne date pas des années 90-2000, la première fois il était apparu aux États-Unis dans les années 30 avec Alvin Hansen, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, en fait, du fait de ce qu'on appelle des vents contraires, c'est ce qu'appelle Gordon des vents contraires, on serait dans une situation où la croissance, du fait que des ralentissements de la productivité, des questions démographiques, climatique ou autre, on serait dans une situation où la croissance va rester plus ou moins stagnante et on ne retrouvera pas des croissances très dynamiques. À ça, il y a eu le débat aux États-Unis. Stiglitz avait répondu, entre autres, que le problème était moins une question de stagnation séculaire que de politiques économiques et d'ajustement des politiques économiques. Donc, alors, est-ce qu'on est, on va retrouver une croissance qui est plutôt pas terrible une fois qu'on aura fini le rattrapage? Bon, ça, c'est une première question. Deuxièmement, moi, ce qui me préoccupe, c'est la zone euro elle-même, parce que même derrière l'apport des banques centrales ces dernières années, les déséquilibres de la zone euro demeurent. C'est-à-dire, effectivement, certains pays connaissent une désindustrialisation préoccupante. Il y a des déséquilibres des balances commerciales aussi dans la zone euro, même si la zone euro, si on la prend comme grand pays, elle apparaît excédentaire. Mais si on regarde à l'intérieur, on voit bien qu'il y a des déséquilibres existants. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans la situation de l'économie mondiale, c'est un peu la fragilité de la zone euro. C'est-à-dire que les banques centrales ont acheté du temps ces 10 dernières années, effectivement, en injectant les liquidités nécessaires. Mais des problèmes de divergence profonde de performance économique à l'intérieur de la zone euro persistent. Et que les banques centrales avaient réussi à cacher en faisant qu'en quelque sorte, on pouvait s'endetter pour pas grand-chose. Mais derrière ça, la machine à diverger qui est dans la zone euro en termes de productivité, de recherche et développement, d'emploi, taux d'activité, demeure. Et qui fait que ça reste une zone, effectivement, très fragile, par-delà même les interventions des banques centrales.
Ouais, est-ce que alors, à tous les deux, aux banquiers, en fait, je m'adresse. Gérer cette hétérogénéité croissante de la zone euro, ça s'est fait dans le passé quand on était en période de baisse de taux. Et là, on se dit, c'est vrai que c'est plus confortable de gérer ces hétérogénéités quand on est en période de baisse de taux que, comme maintenant, quand on va arriver en période de hausse des taux d'intérêt.
Ouais, moi, je suis assez d'accord sur ce diagnostic un peu pessimiste de la zone euro. Et pour reprendre votre première question, ce qui m'inquiète plus, c'est vraiment la situation de la zone euro, mais de l'Europe aussi en général. Parce que c'est vrai que d'un point de vue économique, il y a cette situation d'hétérogénéité qui place d'ailleurs la BCE dans une position beaucoup plus inconfortable que la Fed. Il faut que je fasse quoi ?
Il faut juste qu'on entende moins vos magnifiques bracelets qui tintent. Bon, donc vous tenez vos mains tranquilles.
Je ne bouge plus. Donc, je pense qu'effectivement, la BCE est dans une situation plus inconfortable que la Fed à cause de ces différences entre les différents pays de la zone euro. Mais même d'un point de vue géopolitique, on voit aujourd'hui une reconfiguration de blocs au niveau mondial et on ne voit pas l'Europe dans cette reconfiguration. Donc, s'il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant, c'est effectivement le positionnement de l'Europe et de la zone euro au niveau mondial. Et ça, je pense que c'est une difficulté supplémentaire pour nos pays, tout à fait.
Alors, Christian ?
Oui. Moi, ce qui m'inquiète en Europe, c'est pas tellement les divergences qui m'inquiètent, c'est que on est tous pas très bons du point de vue de la croissance potentielle. Ouais, c'est ça qui m'inquiète.
Oui. La révision de la croissance potentielle française, là, c'est 1%.
Hein. Oui, non, je disais entre 1 et 1,5. Ouais, alors les économistes, les modèles sont pas d'accord, mais enfin, parce que c'est assez compliqué de mesurer tout ça. Mais c'est ça qui m'inquiète, parce que l'Allemagne est pas meilleure que nous. Hein. On est tous autour de 1% pour des raisons différentes d'un pays à l'autre. Et donc, ça rejoint le débat sur les réformes structurelles. Qu'est-ce qu'il faut faire, j'allais dire, une fois qu'on sera un peu sorti du quoi qu'il en coûte, parce que nous sommes encore là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue des politiques et des réformes structurelles pour relever la croissance potentielle? On le sait à peu près. C'est le débat sur la réforme des retraites, c'est le débat sur la réforme du marché du travail. Par rapport au... Je veux pas faire un débat d'histoire de la pensée, mais moi, ma réponse aux partisans de la stagnation séculaire, effectivement, qui remonte au début des années 30, à la fin des années 30, et qu'on retrouve maintenant, pour moi, la réponse, c'est l'innovation. Hein. C'est le progrès technique, c'est... Je veux dire, tous ces gens-là qui nous disent l'investissement va ralentir, les occasions d'investissement, comme disait Alvin Hansen, vont disparaître, etc.
Non, mais là, pour le coup, on n'en a jamais eu autant.
Non, c'est ce que je dis, mais je pense que le moteur du capitalisme, ça reste l'innovation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire technologie, produits et organisation et réforme de l'organisation. Je reviens une minute sur les divergences à l'intérieur de la zone euro. Comme vous l'avez dit, Emmanuel, c'est vrai que c'était plus facile à régler. Ouais. Quand les taux d'intérêt étaient bas. 2010 de encore bas et même qui pouvait encore baisser 2010-2013, que là il faut gérer l'hétérogénéité dans un contexte où les taux remontent. On va voir ce qui se passe du côté italien. Alors l'Italie rajoute une dimension incertitude politique non négligeable. Ils vont avoir leurs élections en septembre, etc. Mais c'est vrai que l'Italie, c'est un peu le test. Alors la BCE a annoncé l'autre jour qu'elle allait mettre en place un instrument de protection de la transmission, comme ils disent. J'aime pas beaucoup le vocabulaire, mais enfin on comprend à peu près ce que ça veut dire. Faire en sorte que la même décision prise à Francfort par la Banque Centrale Européenne puisse avoir un impact sur tous les pays, j'allais dire au même moment à peu près, au-delà des différences de structure d'un pays à l'autre. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire que si les taux italiens se tendent trop par rapport au taux allemand, puisque c'est ce qui compte, c'est comme ça qu'on mesure les écarts, le spread. Bon, la BCE achètera des titres italiens. Je sais pas si elle vendra. Je sais pas si elle vendra des titres allemands, mais ça serait un peu paradoxal.
Mais attendez, c'est ma question, Frédéric Farah. Est-ce que l'Allemagne va rester encore longtemps la référence absolue de la zone euro? Enfin, je veux dire, quand on voit la multiplication des prévisions alarmistes, quand on voit l'impasse du modèle énergétique allemand, je suis sévère si je dis l'impasse du modèle industriel allemand, mais enfin c'est quand même la spécialisation sur des vieux secteurs. On se dit et là on voit des tas de gens, enfin des états d'experts qui nous disent mais attendez, avec ce qui va se passer sur la pénurie de gaz cette année, vous allez avoir des grandes entreprises, vous allez avoir les chimistes qui vont licencier des dizaines de milliers de personnes. Enfin bref, est-ce que l'Allemagne reste la référence incontournable? Et est-ce que on parlait de l'Italie, l'homme malade de l'Europe, mais est-ce que c'est pas l'Allemagne la malade de l'Europe aujourd'hui?
En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'avec ce qui se passe avec l'Ukraine ou la question du gaz ou autre et des choix, quand Mme Merkel est partie, tout le monde l'a célébrée. On a dit, oh là là, mais les années Merkel étaient extraordinaires. Alors maintenant, là, on revoit un peu à la baisse...
Le bilan,
parce qu'on se dit finalement, on l'a peut-être célébré un peu trop vite.
On a abandonné le nucléaire, elle a fait aucun investissement dans les infrastructures.
Voilà, et donc, et en fait, derrière ces excédents budgétaires, il y avait effectivement un problème d'investissement public très préoccupant en Allemagne. Et aujourd'hui, se pose effectivement la question, et en plus se pose la question surtout que l'Allemagne... Maintenant, c'est la question de la solidarité, parce que l'Allemagne a expliqué qu'il fallait à ses voisins qu'ils fassent leurs devoirs à la maison, qu'ils soient à la hauteur, qu'ils fassent les réformes nécessaires. Alors aujourd'hui, l'Allemagne est bien embarrassée. Donc effectivement, sa position donnait des leçons. Surtout qu'en plus, je rappelle que l'Italie, qu'on regarde avec beaucoup d'inquiétude, depuis des années, elle est en excédent primaire.
Absolument.
Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Hors charge de la dette.
Hors charge de la dette, elle est en excédent primaire.
Les comptes publics italiens. Oui, mais alors juste une question, là, répondez-moi, parce que comment se fait-il qu'en accumulant les excédents primaires au fil des années, ça n'ait quasiment aucun impact sur le ratio dette publique sur PIB?
Parce que les marchés ne s'intéressent pas à l'excédent primaire. Ils s'intéressent à l'excédent...
Oui, mais normalement, à force d'accumuler les excédents primaires...
Les économistes s'intéressent au sol primaire en recherche d'intérêt. Les marchés, ils raisonnent sur le
solde. Oui, mais Christian, ce que je veux dire, c'est que si année après année, le solde primaire est positif, il y a bien un moment où la dette elle doit diminuer quand
D'accord,
même.
D'accord, mais y a pas... d'abord, les marchés ne regardent pas que ça.
Ouais.
Samuelson disait, si j'ai deux yeux, c'est pour regarder au moins deux indicateurs. Donc les marchés regardent plusieurs indicateurs et ils pondèrent, c'est tout.
Oui.
C'est vrai que la situation allemande... on a plutôt considéré jusqu'à présent l'équilibre des comptes publics. Donc, de ce point de vue-là, l'Allemagne se portait bien. Mais aujourd'hui, on voit bien que, face à la problématique notamment énergétique, l'Allemagne est un petit peu dans une situation complètement délicate. Et de ce point de vue-là, la France est plutôt favorable, si ce n'est qu'il faut que toutes les centrales nucléaires sont plus ou moins en réparation pour l'instant. Mais bon, cela étant, il faut quand même pas... Alors, c'est vrai que moi, je trouve que l'Europe est dans une position un peu délicate aujourd'hui, mais on est face aussi à des potentiels qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est-à-dire, toute la transition énergétique, ça doit être pris comme une opportunité. Il faut développer ces nouvelles énergies et pareil pour la transition numérique. Donc, on n'est peut-être pas condamné à avoir une croissance complètement atone jusqu'à la fin des jours. Il faut quand même essayer d'investir sur des secteurs porteurs d'avenir. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de choix en la matière.
Et complètement vol. Mais par rapport à ce que dit Sylvie, c'est ce que je voulais dire quand je parlais d'innovation, parce que justement, la transition énergétique, ça passe par des innovations, par des nouvelles technologies, par des nouveaux produits, etc. Donc, quand je dis la croissance potentielle est trop bas, c'est pas du tout passéiste ou pessimiste. C'est-à-dire, C'est maintenant qu'il faut prendre des mesures pour relever la croissance potentielle. Parce qu'un pays qui a une croissance potentielle, je termine, qui a une croissance potentielle à 1%, il ne peut pas espérer être à 3% durablement. La croissance potentielle, c'est la force de rappel de la croissance effective. Si on veut continuer à baisser le chômage, si on veut atteindre l'objectif d'Emmanuel Macron de plein emploi à la fin de ce quinquennat, c'est-à-dire il faut plus de croissance, et à mon avis, plus de croissance, c'est tout à fait compatible avec moins de CO2, et là, je suis contre les thèses de la décroissance, vous l'avez compris, plus de croissance et moins de CO2, c'est possible grâce aux nouvelles technologies, grâce aux innovations.
Frédéric Farah.
En fait, dans cette affaire, l'Europe patine depuis longtemps. Alors, je prendrai deux exemples. Donc, à aucun moment de son histoire, depuis 1999, la zone euro a été leader en matière de croissance dans le monde. À aucun moment. Je veux dire, ça n'a jamais été la zone la plus dynamique du monde. Et deuxièmement, je me rappelle que, si ma mémoire ne fait pas défaut, le 23 mars 2000, à Lisbonne, il y a eu un processus qui s'appelait le fameux processus de Lisbonne. On avait dit qu'en 2010, on devait devenir l'économie la plus compétitive, de plein emploi, et on avait fait toute une série de critères.
La plus technologique.
Voilà. Et on avait dit, il va falloir, je me souviens, on avait établi toute une série de critères à Lisbonne, on avait dit, pour que ça converge. Alors, les critères, c'était, on va devoir converger en niveau de recherche et développement, productivité, taux d'activité, taux d'emploi, etc. Bon, finalement, ce processus est devenu la stratégie de l'Europe croissance 2020. Donc, et là, on attend toujours ce machin. Donc, je rappelle aussi, par rapport à la géopolitique, en 2004, sommet de Laeken, où on nous explique qu'il faut être au centre, une puissance stratégique, avec effectivement que les citoyens s'identifient davantage dans les institutions. Qu'est-ce que est devenu tout ça? Je ne sais pas. Le temps passe. Si vous voulez, c'est ça aussi qui me préoccupe. C'est-à-dire, les réformes structurelles. Regardez l'Italie. Mario Draghi était là. On a vu qu'il y a eu une petite tension sous les spreads récemment. Mario Draghi est arrivé avec une mission claire qui était de mettre en œuvre les réformes structurelles exigées par le PNRR, c'est-à-dire par le plan de Next Generation UE européen. Donc, il a mis ça vraiment en charge. J'ai suivi ça de près. Et bon, n'empêche, il part, d'accord, dans les circonstances que l'on sait, mais on a vu une tension. Alors que, en 2011, quand Berlusconi était là, Jean-Claude Trichet avait envoyé une lettre en disant il faut faire des réformes, il l'a pas faite en novembre, mon ami Mario Monti. Là, il les a faites, et on voit bien que ça change pas toujours la donne. Donc c'est un peu problématique, hein, si vous voulez.
Parce qu'il y a la politique.
On poursuit notre conversation après la petite pause. On retrouvera Sylvie Matera, Christian Deboissieux, Frédéric Farah. On continuera à évoquer les risques conjoncturels pour la deuxième partie, enfin la dernière partie de l'année plus 2023, et puis on reviendra plus en détail sur les politiques monétaires et les banques centrales.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
On retrouve nos experts pour la deuxième partie de cette émission. Sylvie Matera, économiste senior advisor chez le cabinet Mazar. Christian Deboissieux, professeur d'économie et notamment de monnaie. Il a formé des générations d'économistes.
Je ne suis pas tout jeune, en fait.
Sur la monnaie, plusieurs générations, dont la mienne, Christian, c'est vrai. À Paris, un Panthéon-Sorbonne est vice-président du Cercle des économistes qu'il représente, comme tous les jeudis. Et puis Frédéric Farah, économiste, enseignant-chercheur, affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne. Phare pour philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. On reprend notre conversation sur la situation de l'Europe. Alors vous disiez, oui, la stagnation séculaire, ça part sur l'idée qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'investissement, etc. Là, on en a énormément. Ouais. Mais se pose tout de suite la question, chers amis, qui est la question de mais comment on fait pour financer toutes ces innovations alors qu'on a déjà des déficits considérables. Est-ce que ce n'est pas plus que jamais le moment de dissocier les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement? Moi, je vous donne mon intime conviction, c'est que j'ai l'impression que les investisseurs et les marchés financiers sont prêts à financer, mais sans limite, tout ce qui concerne l'investissement, qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là, mais qu'il y a un moment où, quand ils vont mettre leur nez dans les comptes et voir qu'une partie des dépenses, c'est du train de vie, je suis pas sûr que ça se passe bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Farah?
Ce qui est difficile, c'est parfois, c'est pas toujours simple de distinguer qu'est-ce que c'est une dépense d'investissement d'une dépense de fonctionnement. Alors ça, sans vouloir pinailler techniquement, bon, ça c'est Bon, après, si on regarde la structure des dépenses publiques françaises, qu'est-ce que c'est principalement? C'est de la dépense sociale. Mmh. Il y a, en France, la dépense publique, c'est essentiellement la dépense sociale. Et dans la dépense sociale, c'est quoi les deux postes principaux? C'est la maladie et les retraites. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et alors, le problème, c'est que sur cette question de la dépense publique, et il faut regarder les comptes, si on n'avait rien fait depuis des années, j'aurais dit, bon, très bien, il est temps de faire. Mais on n'a pas arrêté de faire. On a fait RGPP...
Oui, mais ce sont des mots, ça, encore.
Oui, mais c'est-à-dire que...
On peut remonter à l'entre-deux-guerres, hein, sur la nécessité de rationner les...
Et moi, quand j'étais étudiant, la RCB, rationalisation des choix budgétaires, à la fin des années 60.
Oui, oui, oui. Mais la liste est interminable. D'ailleurs, il y a la... Une très bonne thèse, mais qui est pas d'économie, mais qui est en droit de Bézès sur les réformes de l'État, où il y avait RCB, toutes ces choses. Bon. Alors, on peut dire que ces réformes n'ont pas été assez conduites. Même, on a modifié la loi de finances pour qu'elle soit plus efficace, la fameuse LOLF. On n'a pas arrêté de faire des choses pareilles. Alors, soit on fait mal le truc, et tous ceux qui ont fait toutes ces réformes, ils les ont mal pensées, ils les ont mal foutues, donc il y a un problème. Mais en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que on a l'impression que on n'a jamais réformé. On a passé son temps depuis trois décennies à réformer dans tous les sens. On a développé des indicateurs, ce que Supio appelle la gouvernance par les nombres. Enfin, on n'a pas arrêté de multiplier ça. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut faire un bilan de toutes ces réformes, il faut des études d'impact, et se dire effectivement peut-être la façon dont on réforme la dépense publique ou les comptes publics, peut-être elle pose un problème, il faut peut-être envisager la réforme de la réforme, je dirais, hein, peut-être effectivement...
Mais vous voyez bien qu'en même temps, il y a une espèce de trauma de la réforme permanente dans tout un tas d'administrations où on change toujours tout pour finalement ne pas changer grand-chose.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric, heureusement, pour le débat, si je puis dire. C'est qu'il y a eu effectivement beaucoup de velléités de réforme de l'État. Parenthèse, on pose toujours le problème de la réforme de l'État, on ne parle jamais des collectivités locales. Or, par rapport au problème de déficit public et dette publique, ce qui compte, c'est les trois étages de la fusée, État, collectivité locale et sécurité sociale. Première remarque. Deuxième remarque, sur le thème qui est central derrière le débat de l'efficacité des dépenses publiques, on n'a pas véritablement fait de progrès pour aborder cette question. Aujourd'hui, on laisse filer les déficits et dettes. On est encore aujourd'hui dans le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte sanitaire est en train de laisser la place au quoi qu'il en coûte ukrainien. C'est-à-dire on compense par la politique budgétaire les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, sur les prix alimentaires, etc. Entre aujourd'hui, on laisse filer et demain, il faudra reprendre la maîtrise des dépenses publiques. Demain, c'est pas demain, vendredi. Demain, c'est dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas quand. Eh bien, il y a le problème de la maîtrise des dépenses publiques dans un contexte où les charges d'intérêt vont augmenter avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc, les marges de manœuvre sur le reste des budgets, État, collectivité locale, parce que les collectivités locales sont également endettées, que je sache. Il n'y a pas que l'État. Bon, donc, ça va devenir très mince, ces marges de manœuvre. Pour aborder ce problème de la maîtrise des dépenses publiques dans un contexte où les charges d'intérêt vont bouffer de plus en plus de proportions des budgets publics, il faudra deux choses. Il faudra premièrement une volonté politique, et deuxièmement, il faudra la méthode. C'est là où je suis en désaccord avec Frédéric. Je considère que malgré la multiplication des commissions, des analyses, etc., nous n'avons pas aujourd'hui la bonne méthode pour choisir entre les dépenses publiques. Le clivage dépenses d'investissement, dépenses courantes, j'y adhère. Ils font ce qu'on appelle la règle d'or. Qu'on trouve dans un certain nombre de pays en disant voilà.
Oui, mais vous butez vite sur effectivement ce que dit Frédéric.
Ouais, voilà, mais parce que je pense qu'on n'a pas les bonnes méthodes pour se projeter. Déjà, même à l'intérieur d'un ministère, on a du mal à choisir entre les dépenses de ce ministère. Alors, a fortiori, dans l'interministériel, c'est encore plus compliqué.
Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord sur les deux points, c'est-à-dire la marge de manœuvre va diminuer. Donc, il faut être plus sélectif. Et pour être plus sélectif, il faut effectivement une volonté politique. Mais là, je veux dire, en France, on a quand même une chance, c'est que notre président, il n'est pas rééligible. Donc, quand vous n'êtes pas rééligible, a priori, il faut profiter.
C'est Sylvie Matera, c'est pour ça qu'on a le droit d'être encore plus surpris, j'ose pas dire déçu, de tout ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Non, mais alors, ça va peut-être venir. Faut pas non plus
ça
être
quand
complètement... Donc il faut être plus sélectif et il faut une volonté politique pour être plus sélectif. Le problème, c'est qu'en France et en Europe en général, je pense que c'est peut-être lié d'ailleurs à l'ampleur des dépenses sociales, on vit trop bien. Donc personne n'a envie de faire un petit effort pour sacrifier un peu de son confort. Et c'est vraiment le problème de l'Europe quand vous regardez au niveau mondial. L'Europe, c'est un endroit où on vit super, super bien. Donc pourquoi faire des efforts? Et on se rend compte que tous les efforts ont été faits suite à des crises. Tout, le développement incroyable qu'on a vu en termes de recherche médicale, c'est grâce au Covid. Le redéveloppement de l'énergie et la force qu'on va mettre à trouver des énergies renouvelables, c'est grâce à la crise actuelle et la guerre en Ukraine.
D'accord.
On va voir la même chose sur la transition énergétique. Donc, c'est à cause, parce que souvent on a des mouvements forts qui arrivent parce qu'on a eu des crises. Parce que tout ça, parce que effectivement, la protection sociale fait que tout le monde vit trop bien, donc on ne se rend pas compte à quel point c'est
nécessaire. Tout le monde ne vit pas trop bien.
Non, mais
démagogie.
Je suis d'accord. Mais quand vous prenez l'Europe par rapport au monde dans son ensemble, l'Europe est un ensemble.
Le point d'arrivée, d'accord, mais concrètement, comment on y va? C'est-à-dire que vous dites qu'il faut plus de sélectivité.
Oui,
mais
ça c'est sûr.
Mais or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on nous avait promis, par exemple, pour limiter le coût des aides au carburant, qu'il y aurait des aides de plus en plus ciblées. Finalement, on nous dit, on va mettre 30 centimes, plus 15,
pour tout le monde.
Plus 18, pour 30 centimes pour tout le monde. Et là, le grand sujet qui se profile quand même, Frédéric Farah, c'est que quand vous regardez les prévisions, enfin les marchés futurs de l'électricité, on vous dit que cet hiver, on va atteindre des prix stratosphériques de l'électricité en France. On est à 800 euros le mégawattheure aujourd'hui, que les dispositifs de soutien au pouvoir d'achat sont censés s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait en janvier? Qu'est-ce qu'on dit aux Français? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit, finalement, on ne concentre plus que les aides sur les plus défavorisés, et les autres, vous prenez de plein fouet la hausse de l'énergie? Comment vous voyez les choses se passer?
Oui, alors, il y a plusieurs choses à dire. Alors, pour revenir à ce que disait Christian, effectivement. Alors, la méthode, il faudra trouver cette méthode. Alors, quoi, comment?
La méthode, c'est l'épée dans le dos. C'est la crise majeure. C'est le FMI à nos portes. Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi comme ça, tranquillement, en le décrétant, à moderniser leur État?
Une remarque. Les pays qui ont réussi à faire une vraie réforme de l'État, on cite toujours le Canada et la Suède au début des années 90, c'est parce qu'ils étaient au fond de la piscine.
On est d'accord.
Ils étaient au fond
donc,
de la piscine.
Ça va pas encore assez mal pour qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
Et par rapport à la deuxième question, ça pose aussi un autre problème qui va pas se résoudre en janvier et qui est derrière tout ça, c'est le fonctionnement du marché de l'électricité en Europe et c'est le fonctionnement du marché européen. Bon. Et là aussi, si vous voulez, en fait, il y a eu beaucoup de temps perdu, c'est-à-dire on a cru dans les années 90, que ce soit pour le transport, que ce soit pour l'énergie, que la libéralisation des marchés, la fin des monopoles et autres allaient apporter toute une série de bénéfices, les prix allaient baisser, tout le monde allait être content, les consommateurs, les producteurs, la terre entière, etc., dans une harmonie généralisée. Bon, résultat des courses, il y a aussi une réforme à faire de ce côté-là, du marché de l'énergie en Europe également. Donc, j'ai bien peur qu'en fait, on soit dans une situation... Et c'est comme ça aussi que va évoluer la protection sociale, qu'on va la cibler de plus en plus vers les plus vulnérables ou pour les aides pour les plus vulnérables. Mais il y a toute une partie de la population qui, elle, risque effectivement de payer très cher ce qui se passe, parce que derrière la question de l'inflation, que ce soit dans l'alimentaire et l'énergie, ressurgit un conflit central de l'économie, c'est le conflit de la répartition. C'est-à-dire le conflit, et je veux dire comment les revenus sont répartis dans l'économie et comment cette répartition se fait, et par définition c'est une répartition conflictuelle, problématique. Donc la question aujourd'hui, c'est qui va payer la facture de cette nouvelle inflation, et est-ce qu'on va pas, au nom de cette sélectivité de la dépense, faire un ciblage, que ça soit pour des mesures comme on voit les boucliers divers et variés, et pareil pour la protection sociale, en disant que en fait, on est dans une situation où il est difficile d'avoir trois trucs en même temps. On ne peut pas avoir en même temps l'état social qu'on a, l'équilibre budgétaire et les dépenses d'avenir. Oui, donc c'est un trilemme.
Le triangle d'incompatibilité.
Oui, donc on ne peut pas avoir les trois.
Une remarque, parce que sur le papier en tout cas, cibler les mesures vers les plus défavorisés, ça paraît logique, normal, indispensable.
Oui,
mais en fait, Frédéric pose, il me semble indirectement, le problème des classes moyennes.
Oui.
C'est-à-dire ceux qui sont un peu au-dessus de tout ça, et qui, en même temps, sont pas très à l'aise et auraient besoin de soutien. Donc, entre cibler sur les plus défavorisés, ou protéger tout le monde, il y a un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver.
Et les économistes, ils n'ont pas des méthodes innovantes plutôt que ces effets de seuil barbares et préhistoriques?
Il ne faut pas attendre tous des économistes non plus.
Hein. Non, mais c'est vrai que cibler les plus défavorisés fait énormément sens, mais on va générer des effets de seuil qui fait que la population intermédiaire va se trouver du coup en manière relative, paupérisée parce qu'elle n'aura pas accès à ses aides.
Je suis tout à fait d'accord. Non, mais attendez, il y a des datas, il y a des choses, on s'est ciblé. André Le Scrooge-Pietri hier était là, il disait, mais attendez, à quoi ça sert d'avoir dépensé 6 milliards d'euros pour nous mettre des compteurs Linky si on n'est pas capable d'ausculter finement ce que consomme chacun, ce dont chacun
mais
a besoin.
Mais justement, attendez, alors excusez-moi, moi, il se trouve que je préside le conseil des parties prenantes d'Enedis.
Alors,
je le dis pour expliquer ce que je vais dire après.
Voilà.
Par souci de transparence et ouais, pour éviter tout conflit d'intérêts dans ce que je vais dire. C'est que, justement, il faut faire attention. Les compteurs Linky, ça marche bien, etc. Mais les gens ont été très prudents parce qu'ils considèrent que, dans certains cas, à tort, ils considèrent que les compteurs sont des mouchards. Donc, il ne faut pas aller trop dans cette direction-là en disant que les compteurs Linky vont permettre des politiques économiques
ouais, mais,
sélectives.
Ouais, mais ça rejoint un autre problème français qui est cette espèce de sacralisation de la donnée, enfin, je veux dire, de la attention aux attaques à la vie privée, etc. Machin.
Ouais, c'est pas que français. Hein. Regardez les réglementations sur la protection des données. Enfin,
ah bah c'est très européen.
Le sujet est extrêmement sensible.
Regardez la CNIL, ça veut dire la CNIL, elle enquiquine quand même.
Le sujet
plus
est très
plus qu'ailleurs.
Il y a le RGPD, il y a la CNIL. Il faut faire attention à ces problèmes-là. Ouais. Je répète, le sujet est sensible. J'ajoute sur le plan économique que pendant très longtemps, moi, je suis le plus ancien, pour ne pas dire le plus vieux, autour de cette table. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais jeune étudiant ou plutôt jeune prof, on parlait que les politiques économiques étaient très sélectives. Très sélectives. On disait il faut réduire la sélectivité des politiques économiques parce que ça a des inconvénients, vous ciblez, vous c'est contourné, c'est, etc. Alors, aujourd'hui, ce que vous dites un peu, c'est ce qu'on dit les uns les autres, c'est qu'il faudrait revenir à des politiques plus ciblées à cause de la crise de l'énergie. Un peu de sélectivité, certainement, vers les plus défavorisés. Pas trop de sélectivité, parce qu'à un moment donné, trop de sélectivité nuit à la cohérence de la politique macroéconomique.
Mais alors, c'est pour ça que votre proposition au cercle des économistes, elle paraissait de
Pourquoi
bon
vous m'agressez, là?
Non, je dis justement. C'est-à-dire, la proposition qui consistait à dire, plutôt que de cibler à l'extrême, avec tous les inconvénients que ça peut avoir en multiples effets de seuil, c'était de dire, bon, bah voilà, on donne finalement un chèque global, aux familles qui en ont le plus besoin, et puis, libre de le dépenser en alimentation, en carburant.
Ouais, je pense que ces problématiques de ciblage ont un intérêt si elles ont si elles sont temporaires. Et je crois qu'au départ, on imaginait que ce surcroît d'inflation importée allait être très temporaire, que la guerre en Ukraine n'allait pas durer longtemps et que donc après on allait revenir dans des zones d'inflation correctes. Et pour éviter justement les effets d'ancrage de cette inflation, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose de tout à fait temporaire et donner des aides ponctuelles. Ouais. Donc on peut cibler ça quand c'est temporaire. Le problème, c'est que si ça se perpétue, ça devient très difficile à gérer parce que ça génère des effets de seuil dont les effets sont vraiment négatifs.
Et ça génère, Sylvie, il n'y a pas que des effets de seuil. Ça génère des conséquences sur la politique macro.
Oui.
Parce qu'à un moment donné, il faut arbitrer entre la sélectivité et la politique macro. La politique budgétaire, elle est un peu sélective. La politique monétaire, elle ne peut pas être tellement sélective. Non. Elle l'a été dans le passé. Donc, il y a un équilibre à trouver entre...
Frédéric Farah, vous êtes ministre de l'économie. Vous faites quoi?
Je ne sais pas. Alors déjà, si être ministre de l'économie, bon, à mon avis, c'est assez casse-tête. Mais déjà, je répondrai que, pour faire écho à ce que disait Christian, c'est tout le problème si je suis ministre de l'économie. Enfin, bon, ce n'est pas une fonction que je souhaite. Déjà, être économiste, ce n'est pas simple. Alors, être ministre de l'économie, laissons voir. Mais c'est, en fait, tout le problème, c'est comment on articule... des objectifs et des instruments de politique économique. Alors c'est très compliqué parce que le budget, on l'a à peu près encore sous la main, même s'il est plus ou moins encadré, surtout qu'avec la Banque Centrale, on a pu dépenser plus que d'habitude. La monnaie ne nous appartient pas. Le taux de change, c'est pas notre affaire. La fiscalité, on n'arrête pas de faire des usines à gaz là-dedans, dans tous les sens. Et donc, la politique industrielle, il faut l'articuler avec la politique de la concurrence européenne. Donc, fabriquer de la politique économique aujourd'hui, c'est hyper sportif. Ouais. C'est-à-dire que les règles qu'on a pu apprendre quand on fait des études économiques, il faut proportionner le nombre d'objectifs aux instruments, tout ce genre de règles qu'on a apprises en économie, sont effectivement de plus en plus difficiles
à mettre, comment dire, en place. Donc aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est de construire ce qu'on appelle un policy mix, c'est-à-dire une combinatoire entre de la monnaie, du budget, sachant que la monnaie, elle n'est plus notre affaire, elle est l'affaire de tous et l'affaire de personne en même temps, et on a un budget qu'il faut aussi effectivement utiliser avec son sous-ensemble qui est la fiscalité. Alors fabriquer ça lorsqu'on n'a pas tous les outils entre les mains, et certains outils, il faut les négocier avec les autres. Par exemple, il y a une question essentielle ces dernières années qui a été insuffisamment traité, c'était la question du taux de change par rapport au dollar. Quel était le bon taux de change par rapport au dollar? Ça, c'est une question qui aujourd'hui se repose parce qu'on voit que l'euro s'effrite de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, ce qui est très difficile de faire de la politique économique, c'est qu'on ne dispose plus de tous les leviers. Et que, effectivement, comment aujourd'hui on constitue une politique qui continue à être dans un quoi qu'il en coûte, avec une politique monétaire qui est en train de devenir restrictive progressivement. Ouais. Et donc, concilier tout ça, c'est un peu un casse-tête. Et je comprends que la position du ministre de l'économie, par moment, c'est un peu mal à la tête, un peu tous les jours.
Oui, mais c'est parce qu'il y a une dimension qui est très importante dans ce que vous dites, c'est que, effectivement, c'est la dimension géographique. Oui. On a des politiques, des votes, des élections au niveau national, et on a la mise en œuvre concrète de ces politiques, dont la plupart sont décidées à Bruxelles.
Oui.
Ou à Francfort pour la politique monétaire. Donc, en fait, on a une grande incohérence au niveau de la zone de l'Europe, parce qu'il y a des éléments essentiels de la politique économique dont chacun des pays ne maîtrise plus les leviers.
Bien sûr.
Et donc, en fait, on essaye de faire des choses dans chacun de nos pays, mais souvent, c'est un petit peu voué à l'échec, parce que les leviers fondamentaux ne sont plus au niveau national. Et donc, tout l'effort européen, de constitution européenne, est vraiment très très louable. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. On n'a pas fini cet alignement européen. Donc notamment, prenez la fiscalité. Je veux dire, dans tous les pays européens, il y a une fiscalité différente, parce que ça, c'est vraiment le cœur du cœur de la politique nationale. Mais du coup, la politique fiscale est ingérable au niveau des pays. C'est un élément essentiel de la politique économique globale. Donc en fait, notre principal problème en Europe, c'est qu'on a des décisions politiques qui ne peuvent pas se mettre en œuvre concrètement, parce que les leviers sont au niveau européen.
Oui, mais on est bien d'accord que vous n'exprimez pas un regret rapport à la construction européenne.
C'est simplement qu'on est à mi-chemin.
Le problème, c'est qu'on est, depuis le début, c'est-à-dire depuis 1950, depuis que ça a démarré, la construction européenne, plan Monnet, Schuman, etc., on est dans cette situation où on fabrique quelque chose de nouveau, je pense.
Mais chaque fois qu'on a l'impression d'avancer, on a l'impression que
c'est la théorie du vélo ou de la bicyclette, ouais, qui consiste à dire que dès qu'on commence un peu à ralentir, on risque de se casser la figure.
Exactement.
Et de provoquer une crise. Donc on est condamné, mais même mot condamné entre guillemets, parce que moi je suis résolument européen, donc je ne veux pas avoir l'air de critiquer.
Petit tour d'horizon pour terminer sur les politiques monétaires. La réserve fédérale américaine qui augmente hier ses taux de 3/4 de points, en disant l'inflation c'est pire que ce qu'on pensait, 9%. Est-ce qu'on a appris des choses finalement? Moi je suis frappé je trouve que c'est vraiment les vieilles recettes face à l'inflation. On a l'impression d'être revenu sous Paul Volcker.
Non mais attendez, les banques centrales ont quand même un mandat. Elles ont un instrument, c'est le taux d'intérêt.
Mais c'est pas de l'inflation endémique, c'est de l'inflation importée.
Bah, c'est pour ça qu'elles ont attendu avant de faire quelque chose. Et puis maintenant, elles se disent qu'il faut le casser. Mais il faut dire que la Fed a fait aussi quelque chose de très important. Elle réduit son bilan. Elle va réduire ses achats. En ce moment, c'est de l'ordre de 50 milliards par mois. Elle a dit qu'à partir de septembre, on serait plus proche de 100 milliards. Ça, c'est intéressant parce qu'elle va réduire son bilan. Donc, on est dans une phase de normalisation monétaire. La Banque Centrale Européenne a dit qu'elle allait arrêter donc ses achats, sauf que, effectivement, le nouvel instrument de protection de la transmission...
On a même du mal à le dire.
Elle va permettre des achats sélectifs par pays. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a augmenté de 50 points de base, qui était une augmentation plus forte que ce qui était attendu pour faire passer justement cet instrument qui, à mon avis, n'a pas dû être facile à faire passer vis-à-vis de certains pays. Parce que tout le monde sait très bien.
Il y a de la conditionnalité en plus dedans.
Mmh. Ouais, exactement. Donc oui, les politiques monétaires sont en train de se normaliser. Alors, est-ce qu'elles ont... vous savez, c'est pas forcément des gens hyper... modernistes, les banquiers centraux, mais leur travail, c'est de maîtriser l'inflation. Ouais. Ils ont des objectifs, ils ont des instruments et ils l'appliquent.
Moi, ce qui m'a frappé, excusez-moi, dans les décisions hier de la Fed, c'est clairement l'abandon du guidage prospectif.
Ouais, la BCE
aussi. Hein, la BCE l'a fait la semaine dernière, ouais. C'est-à-dire que depuis quelques années, les banques centrales voulaient indiquer ce qu'elles allaient faire.
Surtout pas de surprise.
Voilà. On ne prend pas les marchés par surprise. Ouais. On indique à l'avance ce qu'on va faire. Là, on a
affaire... C'est l'antithèse de la stratégie près 2008.
Exact. Ouais. Parce que au départ, je n'ai pas voulu parler anglais, mais au départ, les banques centrales, il y a longtemps, prenaient au contraire les marchés par surprise pour être efficaces. Aujourd'hui, enfin depuis 10 ans, elles stabilisent les anticipations en indiquant à l'avance ce qu'elles veulent faire. Et entre la BCE la semaine dernière, la Réserve fédérale cette semaine, cette stratégie d'annonce de ce qu'on va faire est abandonnée. Et je pense qu'elles ont raison. Parce que, compte tenu des incertitudes, il faut que les banques centrales soient pragmatiques. Pragmatiques. Et donc, Powell, il a dit...
Elles ont été en période de déflation, il faut qu'elles apprennent à l'être en période d'inflation.
Ben voilà, être pragmatique, ajuster en fonction des chiffres.
Frédéric Farah.
Des chiffres.
Oui, on retrouve le vieil instrument, comment dire, c'est vrai. Alors, on pourrait dire un petit parfum historique, parce que effectivement, on retrouve, c'est un petit parfum Tokyo 79, quand on dit lors de ce sommet que désormais, il faut changer la politique monétaire, il faut qu'on lutte contre l'inflation, quand on relit les termes de cette rencontre internationale à Tokyo en 79, c'est ce qui est dit dedans, donc il y a un petit... Alors qu'avant, on était dans la relance, hein, et on a dit non, il faut arrêter la relance, et en 79, on a dit l'inflation est terrible, et quand on relit les termes du sommet, c'est assez intéressant de retrouver des parallèles avec aujourd'hui. Donc on pourrait dire 79, qui est une année clé dans l'histoire, de manière très étrange d'ailleurs, pour plein d'aspects. Donc aujourd'hui, le risque, c'est quoi? C'est qu'on retrouve aussi, si on augmente les taux, comment on fait pour parfois contenir l'inflation? C'est en cassant ou en limitant la progression de l'activité. Hein, parce que c'est ça...
Ça c'est vraiment l'ajustement par le bas, quoi.
Et c'est avec le risque, effectivement, d'augmenter le chômage. Je me souviens, dans un entretien que donnait quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Jean-Paul Fitoussi, à la fin des années 90, avec Jean-Claude Guibaud, il disait, un banquier central, quand il augmente d'un demi-point son intérêt, il sait très bien qu'il peut aussi créer du chômage. Il disait ça, Fitoussi, dans un... je trouve que, oui, c'est ça le risque aussi. C'est que... Et après, ça pose la question... qui va supporter les effets? Et encore, on se retrouve avec la répartition.
Sachant qu'on est obligé de s'arrêter, Sylvie.
Ah bon?
Sachant qu'il y a la moitié des boîtes qui sont quand même en difficulté pour recruter. Et ben voilà, je vous remercie tous les trois. C'est la fin de ces experts. Sylvie Matera, Christian Deboissieu, Frédéric Farah. Et ben, on se retrouve très vite dans les experts, nous, demain. Et puis vous trois, bonnes vacances. Et puis on se retrouve plus vigilants et les lucides que jamais dans les semaines qui viennent.